France Musique.
Musique et moi.
Lise Charles.
Priscille Lafitte, France Musique.
Marianne jouait au piano une chanson d'Édith Piaf. Archambault écoutait avec une attention émue, croyant y reconnaître un morceau de Chopin. Les musiciens qui ont un grand génie, se dit-il, nous feraient croire facilement à l'existence de l'âme et à celle de Dieu. Il éprouva un sentiment de vive sympathie pour les vocations artistiques, en particulier pour celle de sa fille Marianne, qui désirait aller à Paris faire du théâtre. Pourquoi ne réussirait-elle pas ? Elle avait un joli visage blond, et bien qu'ayant échoué 4 fois à son baccalauréat, de l'intelligence et du goût. D'ailleurs, elle jouait ce morceau de Chopin avec une sensibilité qui était sûrement une indication quant au tempérament dramatique. Comment appelles-tu cette chose-là ? L'hôtel meublé, c'est une chanson d'Édith Piaf. Archambault ne se piquait nullement de musique. Néanmoins, il eut une désillusion et douta de la qualité du plaisir qu'il venait de prendre en écoutant Marianne. L'ineffable ne pouvait-il se passer d'un état civil ? Non, décida-t-il brutalement. Pas plus l'ineffable que le reste. Ce qui compte maintenant, ce n'est pas ce qu'on sent, ce qu'on pense ou ce qu'on aime, mais avec quelle référence et avec qui. Passant à des considérations confuses sur l'époque, l'état des esprits et du sien en particulier, il se sentit devenir triste et de mauvais poil. Marcel Aimé, Uranus.
Thank you.
Bonjour, Lise Charles.
Bonjour.
Bienvenue sur France Musique. Merci de vous prêter au jeu de Musique et moi, à distance. Alors nous venons d'écouter ce nocturne en si bémol mineur opus 9 numéro 1 de Frédéric Chopin, dans l'interprétation de Sviatoslav Richter. C'est une captation par la radio hongroise à Budapest au début des années 70. Est-ce que vous êtes devenu, comme le disait Marcel Aimé dans le texte que vous avez lu, triste et de mauvais poil en écoutant ce nocturne?
En tout cas, je crois que ça aurait été tout à fait mon genre de confondre Édith Piaf et Chopin. Je pense que longtemps j'en aurais eu honte et j'aurais essayé de le cacher à tout prix. Et que maintenant que j'écris des livres et que j'en ai beaucoup lu, je l'assume avec une pointe de snobisme. Mais cet air-là, j'aurais pas vraiment pu le confondre parce que je le connais bien. Mais disons que oui, c'est le genre de bourde qui pourrait tout à fait m'arriver.
Est-ce que vous doutez aussi parfois de la qualité du plaisir que vous prenez en écoutant une musique, par exemple ce nocturne-ci? Est-ce que le doute fait partie de votre écoute?
Je dirais que tout dépend des écoutes. Là, j'ai une écoute qui est très intérieure au sens où je fais plus du tout de piano aujourd'hui, mais j'en ai fait un peu quand j'étais enfant. Et c'est un air que je connais de l'intérieur. Je le connais par cœur parce que j'ai beaucoup joué au piano. Et je l'associe toujours un peu à un carnage au sens propre parce que quand j'étais enfant, pour éviter de faire des fautes au piano, j'imaginais que je tuais une personne à chaque fausse note que je faisais. Donc c'est, disons que là, ça m'évoque des souvenirs particulier et un peu cruel.
Donc vous interrogez plutôt sur ce que vos parents, votre entourage ressentaient quand ils vous entendaient vous jouer, c'est
voilà,
ça?
Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et sinon, oui, je trouve que la réflexion de Marcel Aimé est assez, enfin, pour moi, assez juste. Souvent, les choses se mélangent et quand on n'est pas musicien soi-même et qu'on aborde la musique vraiment en profane, en amateur, on sait souvent pas très bien pourquoi on aime telle ou telle musique. Est-ce que c'est simplement parce qu'on associe à tel ou tel souvenir ou... Donc je comprends bien. Après, je trouve pas qu'il y ait là de quoi devenir triste et de mauvais poil. Et je trouve que c'est plutôt bien de l'assumer.
Alors vous venez de nous lire un extrait d'un roman de Marcel Aimé, Uranus. Et cet extrait figure non seulement dans cette émission, mais également dans le roman que vous avez écrit. Nous allons donc faire des mises en abîme entre votre roman et avec l'émission. La demoiselle à cœur ouvert, c'est le titre de ce roman qui est paru chez POL pour la rentrée littéraire. Vous êtes aujourd'hui universitaire, Lise Charles, maîtresse de conférences en langue et littérature française des XVIIe et XVIIIe siècles à la faculté de Nantes. Vous êtes autrice de romans pour adultes et pour enfants aussi. Et on va aller chercher tout de suite les souvenirs musicaux de l'enfance dans cet apprenti sorcier de Paul Dukas, ici par l'orchestre Les Siècles sous la baguette de François-Xavier Roth.
Thank you.
Les Charles, vous avez joué du piano enfant, vous nous racontiez un petit peu auparavant. Comment est-ce que l'univers symphonique, particulièrement cet apprenti sorcier de Paul Dukas, est arrivé jusqu'à vous, enfant?
C'est un de mes premiers souvenirs, je dirais, de musique classique. Mes tout premiers souvenirs de Fantasia, c'est un peu un mélange d'ennui au départ et d'effroi. Les cousins chez qui je passais une partie de mes grandes vacances avaient la cassette vidéo à l'époque. Et je me demandais pourquoi de tous les Disney qui existaient, ils avaient celui-ci. Je le trouvais moins amusant que d'autres Disney et aussi plus terrifiant. J'étais particulièrement effrayée par l'autre passage qui est Une nuit sur le Mont Chauve, où dans mon souvenir il y avait des squelettes, voilà, de Moussorski, ou avec des squelettes qui chevauchaient des animaux décharnés tombant dans de grandes marmites. Enfin, je trouvais ça très très effrayant. Et peu à peu, en fait, on a beaucoup regardé cette cassette vidéo parce que c'était l'une des seules qu'ils avaient, enfin je crois. Et mon frère, avec qui je le regardais, parlait de ce film avec une sorte de respect qui m'étonnait, et comme je respectais mon frère, je respectais son respect, et peu à peu j'en suis venue à être fascinée en fait par cette musique et par l'idée qu'on pouvait concilier en fait la musique classique, qui pour moi était à l'époque une chose un peu difficile et austère, et Mickey qui joue avec des balais, qui Mickey l'apprenti sorcier. J'ai eu un peu le même genre d'émotion quand plus tard j'ai découvert les versions de Someday My Prince Will Come par Miles Davis puis par Bill Evans, c'est-à-dire de voir comment la chanson de Blanche-Neige, qui pour moi est la chanson cucu par excellence, devenait un grand standard de jazz. Et j'aime bien en fait cette conciliation, et voilà. Et par ailleurs, je trouve que c'est une musique qui est magnifique et qui colle parfaitement au dessin animé. Et c'est encore un mystère pour moi de savoir comment le compositeur a pu avoir autre chose en tête que Mickey, que la danse de Mickey quand il a composé cette musique.
L'apprenti sorcier de Paul Dukas, l'orchestre Les Siècles, placé sous la direction de François-Xavier Root.
France Musique.
Priscille Lafitte, musique et moi.
Lise Charles, de quoi étiez-vous l'apprenti sorcière dans votre enfance? Est-ce que la littérature était un monde magique avec lequel il était dangereux de jouer? Déjà.
Je m'étais jamais dit ça comme ça, mais c'est une assez bonne définition peut-être de la littérature, mais pas seulement pour les enfants. C'est toujours un art dangereux, il me semble. C'est ce que j'ai toujours voulu faire, donc. Mais je dirais pas que j'ai changé entre mon enfance et aujourd'hui. Je dirais même que j'ai peut-être plus peur de la littérature aujourd'hui que quand j'étais enfant.
Qu'est-ce que vous lisiez enfant?
Enfant, toute petite, ce que je préférais, c'était la comtesse de Ségur et Roald Dahl, et plus tard les grands classiques que j'ai lus assez tôt en fait. J'aimais beaucoup le théâtre, notamment le théâtre du XVIIe siècle, me plaisait énormément déjà.
Et de la même manière que vous avez pu vous emparer de la musique classique par le biais de dessins animés, il a fallu aussi d'autres cheminements, d'autres chemins de traverse pour arriver à la grande littérature, ou elle a réussi à vous toucher très vite?
Je dirais que c'était rapide, mais c'est vrai que j'ai beaucoup écouté de livres audio quand j'étais enfant, et notamment dans les voyages en voiture, on écoutait, c'est arrivé qu'on écoute des pièces de Racine ou de Corneille, où je comprenais pas tout. Pour moi, littérature et musique sont liées.
Vous avez un rapport auditif à la littérature, c'est ça que je comprends.
Ouais, je dirais ça. En tout cas, pour ce qui est du théâtre, je l'ai vraiment découvert en entendant. Et après, plus tard, quand j'ai, enfin, ma première lecture de La Recherche du Temps Perdu, c'était pas une vraie lecture. C'était, j'ai écouté l'enregistrement par Dussolier, par exemple, et je crois que c'était Lambert Wilson. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'œuvres que j'ai découvertes en les écoutant.
Lors de la préparation de cette émission, Lise Charles, vous m'avez dit avoir grandi au rythme des comédies musicales. C'est un monde choral en soi aussi. Et on verra par la suite que c'est pas sans rapport avec votre écriture. On va écouter un extrait de West Side Story. C'est la version enregistrée par Bernstein lui-même.
But if they start a rumble, we'll rumble them right.
We're gonna hand them a surprise tonight. We're gonna cut them down to size tonight. We said, okay, no rumpus, no tricks, but just in case they jump us, we're ready to mix tonight. We're gonna rock it tonight. We're gonna jazz it up and have us a ball.
Tonight we'll have a private little mix tonight. He'll walk in hot and tired, so what? Don't matter if he's tired, as long as he's hot tonight.
Oh,
Charles, on vient d'entendre cette version de West Side Story enregistrée avec Kirite Kanawa et José Carreras dans les rôles-titres. Par quel biais est-ce que vous avez abordé West Side Story durant l'adolescence, si j'ai bien compris? Est-ce que c'est la chorégraphie de Jerome Robbins qui vous a fasciné? Est-ce que vous vous êtes attaché aux paroles de Stephen Sondheim? Est-ce que c'est l'écriture musicale de Leonard Bernstein elle-même qui vous a attrapé?
Pour moi, c'est un peu difficile à dire. C'est vraiment un film que j'ai vu et revu quand j'étais enfant. Et quand j'étais enfant, j'aimais tellement ce film que j'avais une immense affiche de West Side Story où on voyait Natalie Wood en train de bondir presque hors de l'affiche au-dessus de mon lit. Je peux pas vraiment vous répondre puisque c'était l'ensemble. C'était aussi l'histoire d'amour à la Roméo et Juliette. Entre Tony et Maria, c'était les émotions très fortes qu'elle dégage, et je pense aussi que j'étais touchée sans le savoir, sans me le formuler, par la virtuosité de la musique. Mais les comédies musicales, de manière générale, étaient et sont toujours les films que je préfère regarder. J'avais un très très grand goût pour ce genre cinématographique.
Est-ce que maintenant que vous êtes devenue adulte, vous essayez de comprendre l'écriture d'une comédie musicale comme celle-ci?
Je dirais pas que j'essaye de la comprendre. Peut-être que je la comprends un peu mieux, mais j'ai un plaisir très... Non, j'ai un plaisir très très premier degré. Après, je trouve que, par exemple, pendant le confinement, j'ai acheté le coffret de toutes les comédies musicales de Fred Astaire et Ginger Rogers, enfin les mettant en scène. Je les ai regardées à la suite, donc il y en avait 10, je crois. Et donc, évidemment, on comprend mieux, parce qu'il y a un univers qui se crée avec un retour des personnages. Et voilà, mais j'essaye pas. Non, quand je les vois, je me laisse juste porter par le plaisir immédiat de la musique et des acteurs.
D'accord, vous ne cherchez pas à disséquer. Par exemple, l'écriture chorale, la contre-impathique de Bernstein dans cet ensemble, Tonight, est-ce que cette écriture-là vous parle en tant que romancière? Est-ce que Bernstein, en superposant ses voix, ses chants, dans la tradition de l'opéra mozartien, obtient un résultat qu'on ne peut peut-être jamais atteindre en littérature? Est-ce que vous êtes posé cette question-là?
Tout à fait. Pour moi, quand j'entends le quintette, qui est une reprise d'ailleurs du duo entre Tony et Maria, je trouve que c'est un modèle de composition. Enfin, je saurais pas en parler parce que je n'ai pas fait d'études de musique et je suis pas assez compétente, mais je sens bien que c'est en fait c'est ce que je voudrais faire en écrivant, et particulièrement quand j'ai écrit mon dernier livre, puisque La Demoiselle à cœur ouvert, c'est un roman par lettres, et
c'est l'écriture chorale.
Oui. Et dans le morceau que vous avez passé, c'est aussi très frappant. On passe d'un ton extrêmement agressif à des reprises plus où on entend la romance entre Tony et Maria à l'unisson. Il y a des changements de ton très forts. Il y a des effets, il me semble, de dissonance qui
appellent le drame.
Qui préparent le drame. Et ces effets de préparation aussi, ce sont des choses que j'essaye de faire aussi quand j'écris, et particulièrement dans un roman par lettres comme celui que j'ai écrit en dernier, où on entend différentes voix.
On entend différentes voix, mais effectivement, elles se superposent quand même un petit peu quand même, dans le sens où on entend, on voit des mêmes scènes décrites par des personnages différents, où on lit un même personnage raconter une scène différemment en fonction du destinataire de cette lettre. Puccini, lui, écrit la tragédie comme personne. Je crois que vous avez en tête, Lise Charles, une version de Tosca, celle du film de Gianfranco De Bozio qui date de 1976, avec quasiment la même distribution que l'enregistrement qu'on va écouter tout de suite. Placido Domingo et Cavaradossi, Cheryl Milne et Baron Scarpia, et ici c'est Leontine Price qui chante Tosca.
Oh. giardino, va, scoletta! Hai tradito!
Charles, il y a aussi quelques personnages retors, un peu comme le baron Scarpia, manipulateur dans votre roman La Demoiselle à cœur ouvert. Que pensez-vous de la façon dont Puccini leur donne la parole à ces personnages-là, les met en musique ?
À vrai dire, quand vous avez commencé à passer la musique, j'ai regardé ma montre et si j'ai bien vu, en 2 minutes 40, Cavaradossi, qui vient d'être torturé, demande à Tosca si elle a révélé son secret. Tosca lui ment. Scarpia révèle à Cavaradossi que Tosca lui a menti. On apprend la victoire de Bonaparte. Cavaradossi entame un chant de victoire. Il est condamné à mort. Donc faire tout ça en 2 minutes 40, sans qu'on ait l'impression que le disque a sauté d'une piste à l'autre, ça me paraît vraiment très fort. Et pour moi, c'est, enfin, en fait, vraiment, Tosca, c'est un modèle de narration. Et il y a le même effet de condensation que dans un livre que j'aime énormément, qui est les Chroniques italiennes de Stendhal. Donc, si je pouvais obtenir ça quand j'écris, je serais très heureuse. Je trouve que Tosca, c'est un des plus beaux opéras que je connaisse, aussi parce que les personnages sont extrêmement tranchés, car passionnés.
Enfin, caractérisés.
Voilà.
Ouais, on écoute la suite ensemble et on en reparle juste après.
Quanto?
Quanto?
Il prezzo!
Ciò mi di convenare. Donna bella non mi vendo, a prezzo di moneta, no, no, a donna bella,
ricordo che io due in me tardeggiavo, mie brame inferocivo. Agil quale o porto, ad inghiosti all'amante, ah, in quell'istante, farebbe grazia un cadavere. Come tu vuoi, così, così ti voglio. Condannati, il tempo passa, sai quale oscura opera laggiù si compia. Là si drizza un pachevolo. Al tuo mario per il tuo voler non resta che un'ora di vita.
Thank you.
La romancière Lise Charles est l'invitée de Musique et moi ce matin. Vous parliez de la concentration du récit dans Tosca, cette tragédie ramassée en quelques lignes de chant, dans cet extrait particulièrement. Et vient ce moment où le plus vil des plans de Scarpia côtoie l'art vocal le plus pur, l'air Vicidarte qu'on entendait ici dans la voix de Leontine Price. Est-ce que c'est cette cohabitation qui est fascinante dans cette œuvre? Est-ce que vous recherchez ces contrastes-là aussi en littérature, Lise Charles?
Là, c'est vraiment frappant dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Jamais la méchanceté de Scarpia ne m'était apparue de manière aussi forte. Il est tellement méchant qu'il en est drôle. Et avec son ironie, quand il dit à Tosca qu'il lui demande de coucher avec lui, en échange de la vie de celui qu'il aime, et il lui dit « Violenza non ti faro, je ne te ferai pas violence, tu es libre ». Et ensuite, Tosca, en effet, qui chante « Vici d'arte, vici d'amore ». Ici, c'est moins la concentration dramatique que, en effet, un décalage des tons, qui est aussi pour moi un modèle... On passe d'un univers à un autre et les deux personnages vivent dans deux univers différents.
Et c'est la
même
coexistence.
Même s'ils se rejoindront après par la violence, juste après l'extrait qu'on vient d'entendre. C'est aussi quelque chose que je recherche, en effet, quand j'écris, particulièrement dans mon dernier livre, la cohabitation d'une violence et de réflexion épurée sur la grammaire, la littérature... Voilà, et qui donne un effet presque comique parfois.
Et vous faites exprès de faire coexister justement différentes paroles qui, et que ça forme un contraste qui fait effectivement un effet comique dont vous parlez, mais au final on ressent d'autant plus les émotions qu'elles sont côte à côte.
Oui, tout à fait. Dans mon livre, j'ai cherché à la fois le contraste entre des types de langage. Chacun a son langage, sa rhétorique propre, et aussi des genres, puisque les deux premiers tiers du roman, c'est un roman par lettres, assez classique, et le dernier tiers, c'est un journal intime d'une jeune fille, et qui a une tonalité qui est complètement différente de ce qu'on vient d'entendre, et qui est, on peut dire que le comique ressort d'autant mieux, mais aussi le tragique, enfin ça dépend quel angle, enfin on peut le lire vraiment de différentes façons, je pense.
Oui, et le contraste aussi est fort, par exemple si on prend rien que les lettres de votre personnage principal de ce livre, Octave Milton, qui va s'adresser très différemment à sa mère, à une ancienne amante, à son frère, puis à une femme qu'il vient de rencontrer, et vous vous amusez comme ça, on sent les rouages de l'écriture, où vous amusez aussi le lecteur, en racontant un même événement, très différemment, selon la personne à laquelle il s'adresse. C'est amusant à écrire, j'imagine.
Oui, ces passages-là étaient assez réjouissants pour moi. En effet, c'est d'infinies variations, puisque souvent Octave va pouvoir raconter le même événement 4 ou 5 fois, et on ne saura jamais à qui il ment. Peut-être il ment à tout le monde, parce que Octave, c'est un personnage qui est le personnage caméléon. Il séduit parce que il sait s'adapter parfaitement à la personne à qui il parle. Mon personnage s'adresse aux autres personnages en leur disant ce qu'ils veulent entendre. Et finalement, le lecteur est sans doute un peu perdu puisqu'il ne sait pas ce qui s'est réellement passé.
Est-ce que c'est avec Puccini ou avec d'autres opéras italiens que vous avez appris la langue italienne?
Les opéras de Puccini en général m'ont en tout cas donné envie d'aller en Italie, d'aller y vivre, puisque vous parliez du film de Gianfranco De Bosio. C'est un film que j'ai reçu quand j'étais adolescente et qui m'a vraiment donné envie d'aller à Rome. Et c'est vrai que mes premiers contacts avec la langue italienne, c'était par les livrets d'opéra.
Et vous avez séjourné pendant un an à Rome. Vous étiez pensionnaire de la Villa Médicis en 2017, avec peut-être ce projet de texte-ci, La Demoiselle à cœur ouvert, qui se passe durant l'année de pensionnat d'Octave Milton à la Villa Médicis. Vous êtes donc lancé dans une mise en abîme vertigineuse de vous-même, de vos propres textes. Et pour accompagner mentalement cette écriture, m'avez-vous dit, il y a cette passacaille de Händel.
Thank you.
La passacaille de la suite numéro 7 en sol mineur de Georg Friedrich Händel sous les doigts d'Anne Kefelek.
France Musique.
Priscille Lafitte, Musique et moi.
La romancière Lys Charles est l'invitée de Musique et moi ce matin. C'est une passacaille que vous avez écoutée, vous m'avez dit, en écrivant. Vous écrivez donc en musique. Quel type de concentration est-ce que vous trouvez en écoutant ces suites de Händel?
Il se trouve que j'ai en effet beaucoup écouté cette passacaille en écrivant mon dernier livre et aussi avant quand j'étais à Rome. C'est un morceau que j'associe vraiment, c'est un peu par hasard, à la Villa Médicis. Et je l'ai tellement écouté que quand j'écrivais, j'y entendais, je sais pas vraiment pourquoi, il y a peut-être des raisons musicales spécifiques, mais j'entendais plus qu'ailleurs dans ce morceau un dialogue entre la main droite et la main gauche, comme si vraiment elles se répondaient l'une à l'autre. Et j'en suis venue, quand j'étais fatiguée et que j'écrivais en écoutant ce morceau, à imaginer que l'une des mains était Marianne Renoir, l'une des héroïnes de mon roman, et l'autre Octave, et que l'une roule des mécaniques tandis que l'autre se contente de plaquer des accords, puis l'autre reprend la parole timidement, et qu'il y avait un jeu de séduction entre ces deux mains. Enfin, c'est un rapport assez métaphorique, mais disons que c'était mes imaginations quand j'écrivais. Sinon, il y a aussi de longs moments où, quand j'écris, j'ai besoin d'être complètement dans le silence, où je n'écoute pas de musique. Mais ça, c'est un morceau que j'ai vraiment écouté en écrivant.
C'est vrai que vous vous êtes placée d'un point de vue masculin dans ce livre. Vous êtes dans la peau d'Octave Milton, si j'ai bien compris la mise en abyme, même si vous êtes aussi Marianne Renoir à plus d'un titre. Est-ce que Octave Milton a une voix? À quoi ressemble-t-elle? Elle est, c'est la voix dans les graves du piano, j'imagine?
Oui, et pas forcément. D'ailleurs, mon livre a été lu récemment à haute voix à la Maison de la Poésie, et c'était Anna Mouglalis qui jouait à la fois Marianne Renoir et Livia, l'autre héroïne, et Michel Esco qui jouait Octave, et ça leur allait extrêmement bien. Sachant que Anna Mouglalis, vous devez connaître sa voix, elle a une voix très rocailleuse, très grave, et Michel Esco, je sais pas si on dirait n'a pas une voix grave en tout cas. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il fallait, exactement. Et donc ça me fait revoir aussi, quand j'écoute cette passacaille, je suis plus sûre qu'Octave ait la main gauche. Parce que on peut jouer sur tous les tons, je pense.
Ouais. Y a-t-il un personnage qui est la voix d'Olympia? Olympia, le personnage des contes d'Offenbach, qu'on va écouter dans un instant. Est-ce qu'il y a un personnage qui a cette voix-là?
Je dirais que tous les personnages ont la voix d'Olympia, sauf Livia qui a la voix du... Je crois que c'est un médecin ou un savant qui remonte le ressort, la mécanique de l'automate qu'est Olympia.
Oh.
Dans la voix d'Olympia d'Offenbach, il y a des échos que rend si bien Nathalie Dessay dans cette interprétation. On entend aussi une ferme assurance dans les aigus particulièrement, qui cache des failles que met aussi en relief Nathalie Dessay. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans cet air d'Olympia ?
Je trouve que là, en plus, l'interprétation est vraiment magnifique. C'est un chant qui évoque cette fois vraiment en même temps la joie et le drame, puisque c'est le chant d'une poupée qui ou d'un automate qui va se briser. Je trouve que c'est très audacieux de la part d'Offenbach d'avoir mis en scène ce chant qui est assez virtuose et qui en même temps par moments se casse. Il se casse en fausse note. Et disons que si je vous avais suggéré cet air, c'est parce que dans mon roman, j'avais voulu reproduire quelque chose de ça, c'est-à-dire que je voyais les personnages comme des automates, et dont un personnage machiavélique, Livia, tirerait les fils. Et donc parfois on oublie, on a l'impression qu'il chante, comme le fait Nathalie Dessay ici, les oiseaux dans la charmille, tout va bien, on chante bien et tranquillement. Et parfois on voit la mécanique derrière, on sent la présence de Livia et tout devient beaucoup plus cruel et sombre.
On a compris un peu plus tôt que vous aviez eu un appétit un peu plus jeune pour les comédies musicales. J'ai l'impression aussi dans la liste que vous m'avez envoyée en amont de cette émission que vous avez un goût aussi pour l'opérette, pour les différentes œuvres d'Offenbach, pour les interprétations truculentes de Felicity Lott. Ici, on entendait Nathalie Dessay. Vous avez une amitié peut-être pour ces interprètes-là?
Oui, Offenbach, c'est vrai que j'éprouve un plaisir particulier à écouter les airs d'Offenbach, à la fois les contes d'Hoffmann qui sont un peu à part, il me semble, dans son œuvre, mais aussi La vie parisienne, La grande duchesse de Gerolstein. Et Offenbach, j'ai découvert quand j'étais adolescente grâce à une de mes meilleures amies qui en était une fan absolue et qui m'a initiée. Donc j'ai notamment une version filmée de La Belle Hélène que je trouve extraordinairement drôle. Et je trouve que les livrets de Meyak et Halévy peuvent se lire de manière indépendante. C'est encore mieux évidemment quand on a la musique, mais oui, je suis fascinée par cet humour qui ne recule vraiment devant rien. Et en même temps, dans les contes d'Hoffmann, je disais que c'était à part, il y a une note beaucoup plus mélancolique qui me touche aussi beaucoup.
Et Nathalie Dessay en tant qu'interprète, je crois que vous l'avez entendue, vous dans la Traviata, c'est ça que vous m'avez dit ?
J'avais vu la Traviata au cinéma lors d'un séjour à Pise. C'était assez drôle parce que c'était retransmis directement depuis le Met. Donc je me disais, c'est un opéra qui voyage d'Italie, puisque c'est un opéra italien qui va transiter par la France avec Nathalie Dessay qui est française et qui est retransmis de nouveau à Pise en direct du Met. C'était une interprétation aussi qui m'avait beaucoup plu.
Alors vous élaborez des variations en quelque sorte, Lise Charles, dans votre écriture, c'est ce que j'en comprends. Et vous nous avez suggéré d'écouter, je trouve que c'est une très belle idée, les variations sur une valse de Diabelli de Beethoven. On écoute le thème et les deux premières variations par Andreas Steiger.
Thank you.
Voilà, c'était les variations 1 et 2 parmi les 33 qu'a composé Beethoven sur cette valse de Diabelli. Lise-Charles, est-ce que vous traquez aussi en musique ce qui est réutilisé de la même manière que vous retricotez vos propres matériaux d'écriture dans vos propres romans?
Dire que je traque, c'est peut-être excessif, mais en tout cas, c'est vrai que les structures en thèmes et variations m'intéressent particulièrement, et il faut dire que celles-ci sont magnifiques, mais j'ai plus de mal à identifier les motifs en musique qu'en littérature, au sens où, parce que mon oreille n'est pas aussi exercée que mon appréhension du texte littéraire, mais disons que si on a parlé de ces variations à Diabelli, c'est parce que je trouvais que c'était une bonne métaphore du roman épistolaire en général, avec la différence qu'un roman épistolaire, on pourrait dire que ce sont des variations sans thème. Dans ce que j'ai essayé de faire, on a souvent des groupements de lettres qui racontent, on l'a dit tout à l'heure, plusieurs fois le même événement, mais on n'a pas la matière brute. Alors que chez Beethoven, on a la valse de Diabelli qui est le matériau à partir duquel il va faire toutes ces variations. Ce sont des variations d'ailleurs que je trouve particulièrement intéressantes parce qu'il y en a qui sont très très courtes, d'autres très longues, et elles sont particulièrement variées. Enfin, c'est un peu un pléonasme de le dire, mais... Octave Milton à Véronique Maton, 4 septembre 2017. Ma chère maman, j'espère que tu as passé une bonne journée en compagnie d'Ourga. Je ne sais pas dans quel ordre commencer ce message, d'autant plus que je suis au-delà de la fatigue. Je t'écris d'une grande maison moderne au milieu du parc de la Villa Médicis. Quand l'avion a décollé, j'ai senti cet étirement du cœur que tu m'as si bien décrit, l'impression que le cœur est une bouche, qu'elle se met à sourire. C'est exactement ça. Ma maison est située à Sarcelles, oui, tu as bien lu. À gauche de la villa proprement dite, les jardins bien taillés, avec au fond les appartements historiques. C'est Neuilly, parce que c'est chic. Mais si tu vas à droite, tu peux grimper sur le Bosco, une forêt de chênes en hauteur, surplombée par une minuscule colline artificielle qu'on appelle le Parnasse. Tu traverses le Bosco, tu redescends et tu arrives à Sarcelles. Tu peux aussi t'y rendre par l'allée des orangers, qui est en fait l'allée des artichauts. Notre directrice, qui adore les artichauts, en a fait planter tout le long, on ne voit plus que ça. Mon voisin Daniel, qui restaure des peintures sur bois du XVe siècle et s'y connaît en jardinage, a prédit qu'il ne survivrait pas. En été, cette allée doit être une fournaise. Sarcelles, c'est une rangée de pavillons modernes et charmants, construits, je crois, à l'époque où Balthus était directeur. Ses noms, Neuilly, Sarcelles, remontent à 1989, date à laquelle Hervé Guibert a publié un livre qui se déroule ici, L'Incognito. La vérité, c'est que les gens se battent pour être à Sarcelles parce qu'on y est plus tranquille et que les logements sont plus confortables. J'ai tout de même un petit atelier à Neuilly, à 10 minutes de l'appartement, près d'une imposante statue antique représentant la déesse Rome. C'est une jolie pièce de plein pied avec le jardin, ça sent la cave, j'aime bien. Je ferai donc un très bon usage du thermos que tu m'as offert. Je compte faire du café ici et l'emporter là. Je t'embrasse fort. Fais une caresse de ma part à Ourga, tu me manques déjà. Pierre. Thank you.
Clapton à Livia Colangeli, 5 septembre 2017. Livia. Moi qui m'attendais à avoir une chambre ornée de fresques, me voilà bien emmerdée. Je suis à Sarcelles, comme on appelle, tu dois le savoir, toi qui sais tout, la partie la plus pourrie, à l'est du domaine. Le ménage n'était pas fait dans mon pavillon. J'ai trouvé des miettes dans les plis de mon canapé et des poils collés au tiroir de la cuisine. Si on veut des draps et des serviettes, il faut payer 150 euros. Je pensais qu'il y avait une cantine, même pas. Seulement un café, le Colbert, qui fait des salades hors de prix et qui ferme à 18h. Alors oui, certes, j'ai un atelier à Neuilly. Un atelier, mais pourquoi faire? Je ne suis pas un peintre. Que suis-je au fait? Bon. L'atelier est humide et sans nous renfermer. Tiens, un alexandrin. Il est juste à côté de la grosse déesse Rome. C'est une statue antique qui est restée là parce qu'elle était trop lourde et trop moche, mais l'histoire ne le dit pas, pour être déplacée à Florence au moment où l'Italie a cédé la villa à la France. Tu le savais que toutes les autres statues sont des copies? Le Mercure en bronze au-dessus de la fontaine. C'est la copie d'un original parti pour Florence. Et les deux lions devant le palais, ces lions graves et joueurs, la patte posée sur une boule. Des copies en travertin. Et la flèche de granit rose. Copie aussi, copie, te dis-je. Quant au Niobide, quelle déception. On m'avait tant vanté ce groupe antique, les enfants de Niobé tombant sous les flèches d'Apollon et d'Artémis, avec des poses et des expressions toutes plus pathétiques et charmantes les unes que les autres. Tout est faux! Ce sont des moulages faits par un pensionnaire, d'après les originaux conservés aux offices, sur commande de Balthus. Bref, je m'apprête à passer un an à Hollywood. Bacci Delusi, Octave.
Gestalt und bist du nicht willig, so brauch Sitz, er reitet geschwind.
Le roi des Ulm, Erl König, de Franz Schubert, Dietrich Fischer-Dieskau et Gérald Mohr interprètent ce lied de Schubert. Qui vous inspire quoi à vous, Lise Charles, cette créature maléfique qui est très familière de la littérature allemande, qui ici c'est le texte de Goethe, hein, qui est repris
oui,
par Schubert.
Oui, ça m'inspire de l'effroi. Je crois que c'est ce qui est visé par Schubert et par Goethe. Et je trouve que c'est un des plus beaux morceaux que je connaisse. Dans ce morceau, j'aime tout. J'aime la structure dialoguée avec les trois voix qui s'en mêlent. Celle du père, celle de l'enfant et celle du roi des Aulnes qui veut attirer l'enfant. J'aime le piano qui imite le galop d'un cheval. Et ce que je trouve fascinant thématiquement, c'est la question de la frontière brouillée entre imagination et réalité. Puisque pendant tout le poème, on a l'impression qu'il s'agit d'imagination enfantine au cœur de la nuit. Et finalement, le dernier vers nous dit Das Kind war tot, l'enfant était mort, et donc là, c'est comme si l'imagination bondissait d'un coup dans la réalité, et faisait intrusion dans la réalité, et donc on ne sait pas, enfin c'est typiquement du fantastique, on ne sait pas ce qu'il faut en penser. Voilà, je trouve que c'est un morceau parfait, à la fois formellement, thématiquement.
J'y entends, maintenant que vous m'en parlez, j'y entends les correspondances avec votre roman La Demoiselle au cœur ouvert, parce qu'il y a aussi de l'enfance, il y a aussi ce danger de mort qui survient alors qu'on ne l'avait pas vu venir.
Un tiers du roman, c'est le journal d'une jeune fille qui va de ses 7 ans à ses 14 ans et qui est plein de ces superstitions qui évoluent avec le temps, mais qu'elle garde en elle. Elle porte en elle le tragique dès le début. Je ne vais pas en dire trop, mais en tout cas, cette question de l'imagination et de l'imagination qui remonte à la surface et qui modifie la réalité, elle est fondamentale dans mon livre et notamment dans ce journal.
Pour terminer cette émission, Lise Charles, j'aimerais qu'on laisse un tout petit peu de côté le roman que vous venez de publier, La Demoiselle à cœur ouvert, et qu'on prenne un petit peu d'avance sur vos travaux futurs. Vous m'avez dit que vous travaillez avec le compositeur Aurélien Dumont, que vous avez en tête un travail ensemble, un travail commun sur un opéra. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Où est-ce que vous en êtes de ce travail-là ?
Alors, j'ai rencontré Aurélien Dumont à la Villa Médicis, un compositeur qui était pensionnaire en même temps que moi, et il m'a proposé d'écrire avec lui un opéra. Donc, j'ai créé le livret et lui la musique, bien entendu. Heureusement que c'est pas le contraire. Il s'agit de partir de l'histoire de Linus, qui est un opéra de Rameau qui n'a jamais été représenté. On a perdu l'essentiel de cet opéra puisque on a retrouvé seulement la partie du premier violon et le livret. Et on ne sait pas comment cet opéra a été perdu. Aurélien Dumont, qui s'intéresse beaucoup à la musique baroque et qui compose souvent à partir d'un matériau baroque, m'a proposé d'écrire l'histoire de cet opéra. Donc j'ai pensé écrire l'histoire de la dernière répétition de Linus, qui a eu lieu, on le sait, chez la marquise de Villeroy.
Vous voilà donc avec Rameau dans votre période de prédilection, qui est la littérature des XVIIe et XVIIIe siècles.
Oui, tout à fait. C'est assez amusant pour moi de lire ce livret qui a été composé par un certain Bruère. Et quand on lit le livret seul, en fait, il y a un effet assez drôle puisqu'il est, enfin, c'est pas terrible si je peux me permettre. Et c'est vraiment plein de coups de théâtre, etc. Et j'aurais été vraiment curieuse de savoir ce que Rameau en aurait fait. Et je pense qu'avec Rameau, ça serait devenu magnifique. Et donc, en effet, je suis assez à l'aise dans cette période. Je suis vraiment contente de me prêter au jeu avec Aurélien Dumont.
Je vous propose qu'on se quitte sur quelques notes d'une des compositions d'Aurélien Dumont. Ça s'appelle Églogue. Ça a été composé en 2011 pour le trio Dauphine dans un album appelé Wild.
Thank you. porté par la nature, chant tout simple.
Tel que les prés herbeux, manger direct l'herbe, tendre et brûler.
Merci beaucoup, Lise Charles, de vous être prêtée au jeu de Musique et moi ce matin sur France Musique. Je rappelle que vous êtes l'autrice d'un roman qui est paru lors de la rentrée littéraire dernier, La Demoiselle à cœur ouvert. C'est un roman qui est paru chez POL. Merci beaucoup, Lise Charles. Merci à l'équipe qui a réalisé et permis cette émission ce matin. Pierre Monteil à la technique, Vanessa Nadjar à la réalisation et Marie Ferdinand, attachée de production. Je vous souhaite un très bon dimanche sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.